Chapitre 21. Querelle à propos d'une héritière. Les mérites incontestables que possédait Miss Fartz avaient assurément de quoi inspirer une violente passion, et l'âme du vieil Osborne se berçait déjà de mille rêves ambitieux qu'il espérait bientôt, grâce à cette héritière, voir passer à l'état de réalité. Il était ravi des avances et des cajoleries que ses filles faisaient à leur nouvelle amie, et il déclarait que sa plus grande joie comme père était de voir ses enfants placer si bien leurs affections. « Il ne faut point chercher, disait-il à Miss Rhoda, dans notre humble retraite de Russell Square, la splendeur et le luxe que vous offrent les salons aristocratiques. Chère demoiselle, mes filles sont toutes simples, toutes ouvertes. Ce qu'on peut dire pour elles, c'est qu'elles ont le cœur bien placé et ressentent pour vous une tendresse qui prouve en leur faveur. Quant à moi, je ne suis qu'un négociant tout uni et tout rond dans les affaires et sans prétention. Comme pourront vous le dire Halka et Bullock, les correspondants de feu votre père, de si respectable mémoire. Vous trouverez chez nous cette cordialité et cette franchise qui font le bonheur et, pour tout dire en un mot, une famille respectée, une table simple, des mœurs honnêtes, un accueil affectueux. Ah, chère Miss Rhoda, chère Rhoda, laissez-moi vous appeler ainsi, car mon cœur, je vous le jure, s'épanouit de joie à votre approche. Je vous le dis du fond du cœur, je ne sais quel instinct me pousse vers vous. Vite, un verre de champagne. Hicks, du champagne pour Miss Fartz. Pourquoi douter de la véracité du vieil Osborne, de la sincérité de ses filles dans leurs protestations de tendresse pour Miss Fartz? Combien de gens y a-t-il ici-bas dont les affections savent aller ainsi au-devant des écus et les saluent de loin? Leurs plus tendres sympathies sont toujours prêtes pour ceux qui ont le bon esprit d'avoir beaucoup d'argent et qui justifient l'amitié qu'on leur accorde par leur rang dans le monde. Pendant 15 ans, les Osborne n'avaient manifesté qu'une très mince tendresse à la pauvre Amelia, tandis qu'une seule soirée suffit pour les enflammer d'une belle passion en faveur de Miss Fartz, de manière à persuader les plus incrédules sur la sympathie mystérieuse des cœurs. Quelle magnifique partie ce serait là pour George, disaient ses sœurs avec Miss Worth, et qui lui vaudrait bien mieux que cette petite nièce d'Amelia. Un joli garçon comme lui, avec sa tournure, son grade, ses qualités, était le mari qu'il fallait à la riche héritière. Les demoiselles Osborne avaient soin de parsemer l'horizon de bals à Portland Place, de présentations à la cour, d'invitations chez les plus hauts personnages. Il n'était plus question que de George et de ses brillantes connaissances auprès de leur nouvelle et bien chère amie. Le vieil Osborne, de son côté, voyait là pour son fils une excellente occasion. George laisserait l'armée pour le Parlement et prendrait sa place dans les salons et la politique. Le sang du vieillard bouillait dans ses veines quand il pensait que le nom des Osborne pourrait être anobli dans la personne de son fils, et pour lui, il se voyait déjà le tronc d'une glorieuse lignée de baronnets. Dans la cité et à la bourse, il se mit en quête des renseignements les plus complets sur la fortune de l'héritière, sur la nature de ses biens, sur la situation de ses immeubles. Le jeune Fred Bullock, qui lui avait fourni les indications les plus détaillées, aurait bien pris l'affaire pour son propre compte. Ce sont les expressions mêmes du jeune banquier, si déjà il n'avait pas été fiancé à Mariah Osborne. Ne pouvant donc faire sa femme de Miss Fartz, ce désintéressé jeune homme aurait bien voulu en faire tout au moins sa belle-sœur. « Que George marche l'assaut franchement, continua-t-il, sur le ton de la plaisanterie, et l'enlève à la pointe de l'épée. Il faut frapper le fer pendant qu'il est rouge, comme on dit, et la prendre au déboté. Dans une semaine ou deux, quelque petit freluquet de nos quartiers aristocratiques viendra lui offrir son titre avec une fortune à refaire, et nous autres gens de la cité nous en serons pour nos frais, comme c'est arrivé l'année dernière pour Lord Fitzrufus et Miss Grogram, jusqu'à leur fiancée à Poder de la maison Poder et Brown. Le plus tôt, c'est le mieux, Monsieur Osborne, tel est mon sentiment. » Quand Monsieur Osborne fut parti, Monsieur Bullock se souvint alors d'Amelia, de la grâce aimable de cette jeune fille, si attachée à George Osborne, et il préleva bien sur son temps 10 précieuses secondes pour déplorer le malheur qui avait frappé cet innocent enfant. Ainsi, pendant que l'inconstant George Osborne revenait aux pieds d'Amelia, sous l'inspiration de son bon génie personnifié dans l'excellent Dobbin, son père et ses sœurs préparaient pour lui un brillant mariage, sans croire à aucun obstacle possible de sa part. Lorsque le vieil Osborne faisait ce qu'il appelait une « ouverture », il ne laissait point de place au doute par rapport à ses intentions. Lorsque d'un coup de pied il précipitait un de ses valets du haut de son escalier, c'était une ouverture pour engager celui-ci à quitter son service. Avec sa rondeur, son tact ordinaire, il promit à Mrs. Huggistone de lui souscrire un billet à vue de 10 000 livres le jour où son fils épouserait sa pupille. Il appelait cela une ouverture et pensait avoir agi en diplomate consommé touchant la susdite héritière. Il fit aussitôt une ouverture à Georges. Il lui ordonna de l'épouser sur le champ, tout comme il aurait dit à son sommelier de déboucher une bouteille ou à son secrétaire d'écrire une lettre. Cette ouverture du genre impératif fut accueillie par Georges avec une vive contrariété. Il était alors dans le premier enthousiasme, dans le premier feu de sa réconciliation avec Amelia, et jamais ses chaînes ne lui avaient paru si douces. La comparaison de ses manières, de sa tournure avec celle de Miss Fartz, lui montrait une union avec celle-ci sous des traits doublement burlesques et odieux. « Des voitures et des loges de l'opéra, se disait-il, où l'on me verra à côté de mon enchanteresse couleur acajou, j'en ai assez. » Il faut dire que le jeune Osborne était bien aussi entêté que le vieux. Quand il voulait quelque chose, rien ne pouvait l'ébranler dans sa résolution, et si les fureurs du père étaient terribles, celles du fils ne valaient guère mieux. La première fois que son père lui signifia d'un ton impératif qu'il aurait à déposer ses hommages aux pieds de Miss Fartz, Georges songea à opposer la temporisation à l'ouverture du vieillard. « Vous auriez dû y penser plus tôt, mon père, lui dit-il. Cela est impossible maintenant. D'un moment à l'autre, nous allons recevoir nos ordres de départ. Ce sera pour mon retour, si tant est que j'en revienne. » Et il s'efforçait pour lui faire sentir que c'était fort mal prendre son temps pour conclure un mariage, que de choisir précisément celui où le régiment était menacé à chaque instant de quitter l'Angleterre. Le peu de jours qui restaient devait être consacré aux préparatifs de campagne et non à des serments d'amour. Il songerait tout à son aise à se marier quand il aurait son brevet de major. « Car je vous le jure, continuait-il d'un air joyeux et déterminé, vous verrez un de ces jours le nom de George Osborne tout au long sur la Gazette. » Suivait la réplique du père, qui mettait en avant les renseignements qu'il avait pris dans la cité. Mais le père avait à cœur d'empêcher que quelque freluquet aristocratique ne fît main basse sur l'héritière dans le cas d'un plus long retard, et on pouvait au moins par précaution procéder aux fiançailles pour célébrer ensuite le mariage au retour de George en Angleterre. D'ailleurs, c'était une folie d'aller exposer sa vie sur le continent lorsqu'on avait sous la main une fortune de 10 000 livres sterling de rente. « Vous voulez donc, monsieur, que je passe pour un lâche ?» répliqua Georges, « et que notre nom soit déshonoré par tendresse pour les écus de Miss Fartz ?» Cette objection jeta quelque incertitude dans l'esprit du vieillard. Mais, dominé par son entêtement naturel, il répondit « Demain, vous dînerez ici, monsieur, et toutes les fois que Miss Fartz y viendra, j'entends que vous soyez là pour lui faire votre cour. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez passer chez M. Chopper. » Un nouvel obstacle s'élevait donc à la traverse des projets de Georges au sujet d'Amelia. Plus d'une conférence intime eut lieu à cette occasion entre lui et Dobbin. L'opinion de ce dernier nous est déjà connue, et quant à Georges, une fois qu'il s'était mis une chose en tête, il ne s'arrêtait pas devant une difficulté de plus ou de moins. La négrillonne restait tout à fait étrangère à cette conspiration tramée entre les principaux membres de la famille Osborne et dont elle était l'objet. Bien plus, sa tutrice et amie ne lui avaient rien laissé pénétrer et l'héritière de St. Kitts prenait pour très sincères les flatteries de ses jeunes compagnes. Sa nature impétueuse et ardente, comme nous avons eu l'occasion de le voir précédemment, répondait à ces démonstrations multipliées avec une chaleur toute tropicale. Et puis, il faut en convenir, elle trouvait une jouissance personnelle dans ses visites à Russell Square. Elle y rencontrait un charmant garçon, George Osborne, en un mot. Les moustaches du jeune lieutenant avaient fait sur elle une vive impression le soir où elle les avait vues au bal de M. Alker, et comme nous le savons, elle n'était pas la première victime de leur puissance séductrice. George savait prendre à la fois un air vaniteux et mélancolique, langoureuse et hautain, derrière lequel il affectait de laisser entrevoir des passions, des secrets et tout un enchaînement mystérieux de peines de cœur et d'aventures. Sa voix avait des notes douces et sonores. Il disait « Il fait chaud ce soir » ou offrait une glace avec cet accent triste et sentimental qui l'aurait mise à annoncer à la même dame la mort de sa mère ou à lui faire une déclaration d'amour. Il regardait du haut de sa grandeur les jeunes lions de la société de son père et posait en héros parmi ses élégants de troisième ordre. Les uns riaient de lui et le détestaient, les autres, comme Dobbin, concevaient une admiration poussée jusqu'au fanatisme. Toujours est-il que ses moustaches commençaient à produire leur effet sur le petit cœur de Miss Fartz et à l'enrouler de leur vrille capricieuse. Toutes les fois qu'il y avait chance de voir George Osborne à Russell Square, cette naïve et excellente jeune fille n'avait point de paix qu'elle ne fût auprès de ses chers amis. C'était une dépense et un luxe de robes neuves, de bracelets et de chapeaux sur lesquels on ne ménageait pas les plumes. Elle donnait à sa parure tous les soins imaginables pour assurer son triomphe sur le conquérant et avait recours à toutes ses séductions pour obtenir ses bonnes grâces. Quand les demoiselles Osborne lui demandaient de leur air le plus grave de faire un peu de musique, elle chantait ses trois romances et jouait ses deux morceaux avec un courage infatigable et un plaisir toujours croissant. Pendant que les demoiselles Osborne se livraient à ces délicieuses distractions, Miss Watt et la tutrice, se retirant dans un coin de la pièce, se mettaient à étudier le dictionnaire de la pairie et à parler noblesse. Le lendemain du jour où George reçut l'ouverture de son père, quelques instants avant le dîner, il s'étendit sur le sofa du salon dans la pose la plus naturelle à un homme mélancolique et rêveur. D'après l'avis de son père, il avait passé dans la journée au bureau de M. Chopper. Le vieux commerçant donnait de grosses sommes à son fils, sans consulter, dans ses largesses, d'autres règles que son caprice. Ensuite, George s'était rendu à Fulham, où il était resté 3 heures avec Amelia, sa chère petite Amelia, et enfin il était venu retrouver ses sœurs, aussi empesées dans leur maintien que leur robe de mousseline. La société était réunie dans le salon. Les duègnes bavardaient dans leur coin, et l'honnête Schwartz portait sa robe favorite de satin jaune, des bracelets de turquoise, des bagues à n'en plus finir, des fleurs, des plumes, et une collection de breloques et de brimborions qui la faisait ressembler à la boutique d'une revendeuse à la toilette. Les demoiselles de la maison, après des efforts inutiles pour tirer une parole de leur frère, se mirent sur le chapitre des modes et parlèrent de la dernière réception à la cour. George ne tarda pas à trouver ce babillage insupportable. Et puis ses tournures étaient-elles à comparer à celles de la petite Amy? Dans ses voix brusques et saccadées, ses jupes roides d'empois, qui avait-il de semblable à la douceur angélique, aux grâces modestes de sa bien-aimée? La pauvre Schwartz était justement assise à la place que prenait autrefois Amy. Ses mains, couvertes de joyaux, s'étalait en éventail sur sa robe de satin jaune. Ses broches et ses boucles d'oreilles lançaient des lueurs rutilantes et ses gros yeux semblaient vouloir se précipiter de leurs orbites. Elle exprimait dans toute sa personne la parfaite satisfaction du désœuvrement avec un air qui disait à tout le monde « Admirez-moi ». Les deux sœurs trouvaient du reste que le satin lui allait à ravir. « Le diable m'emporte !» dit Georges, en retrouvant le confident de son cœur, « si elle n'avait pas l'air d'un mandarin chinois qui n'a rien à faire toute la journée qu'à branler la tête. Vrai Dieu, Will, j'étais démangé de l'envie de lui jeter le coussin du sofa. » Il était parvenu toutefois à réprimer la pétulance de sa mauvaise humeur. Ses sœurs se mirent à jouer la bataille de Prague. « Encore cet infernal refrain !» hurla Georges, exaspéré, du sofa où il était couché. « Vous voulez donc me rendre fou ?»« À la bonne heure, si Miss Fartz nous jouait quelque chose. »« Chantez-nous quelque chose, Miss Fartz, ce que vous voudrez, à l'exception toutefois de la bataille de Prague. »« Que désirez-vous, Marie aux yeux bleus ou l'air de la corbeille ?» demanda Miss Fartz. « Il est fort joli, l'air de la corbeille, » reprirent en chœur les deux demoiselles Osborne. « Connu !» cria de son sofa le misanthrope. « Je puis vous chanter encore « Fleuve du Tage », dit Schwartz d'une voix doucereuse. « Il ne me manque que les paroles. » Là s'arrêtait le répertoire de la jeune fille. « Oh oui, fleuve du Tage !» s'écria Miss Maria. « Nous avons la romance. » Et elle alla chercher bien vite le recueil où elle se trouvait. Or, cette romance, qui jouissait de la vogue du moment, avait été donnée aux deux sœurs par une de leurs amies, dont le nom était écrit sur la première page. Miss Fartz reçut de George les plus vifs applaudissements. C'était, en effet, une des romances favorites d'Amelia, et il ne l'avait pas oubliée. L'héritière de St. Kitts, espérant sans doute qu'on la prierait de recommencer, jouait négligemment avec les feuillets de la musique lorsque son œil rencontra le nom d'Amelia Sedley, écrit au haut du premier feuillet. « Dites donc !» s'écria Miss Fartz en tournant vivement sur le tabouret. « Est-ce là mon Amelia, l'Amelia qui était chez Miss Pinkerton à Hammersmith ? C'est elle, n'est-ce pas ? Comment va-t-elle ? Où est-elle ?» « Ne répétez pas ce nom, » s'empressa de dire Maria Osborne. « Sa famille est bien coupable. Son père a abusé de la confiance d'une autre, et quant à elle, son nom n'est plus prononcé ici. » Maria Osborne se vengeait ainsi de la sortie de George au sujet de la bataille de Prague. « Êtes-vous l'ami d'Amelia ? » demanda George en se redressant. « Dieu vous le rende alors, Miss Fartz. Ne croyez pas un mot de tout le bavardage de ces femmes. » On n'a pas le moindre reproche à lui adresser. C'est la meilleure. Vous savez bien, George, que vous ne devez point parler ainsi, s'écria Jane, tout effarée. Papa le défend. Je voudrais bien voir qu'on m'en empêcha, cria George en fureur. Je veux parler d'elle. Je dis que c'est la plus accomplie, la plus douce, la plus charmante des filles d'Angleterre. Que son père soit banqueroutier ou non, mes sœurs ne sont pas dignes de délier les cordons de ses souliers. « Si vous l'aimez, allez la voir, Miss Fartz. Elle n'a plus beaucoup d'amis maintenant. Et, je le répète, Dieu bénira ceux qui lui conservent quelque affection. Qui parle bien d'elle est mon ami. Qui en dit du mal est mon ennemi. Merci encore une fois, Miss Fartz. » Et, se levant, il alla lui serrer la main. « Ah, George !» fit une de ses sœurs d'une voix suppliante. « Ah, George, que dites-vous là ?» « Je dis, » répéta Georges d'un air de défi, « que je remercie tous ceux qui aiment Amelia Sedd. » Il laissa son mot inachevé. Le vieil Osborne était dans la pièce, la face livide de colère. Ses yeux injectés de sang brillaient comme des charbons ardents. Bien que Georges se fût arrêté tout court, le sang lui bouillonnait dans les veines, et tous les Osborne de la terre ne l'auraient pas fait reculer d'un pas. Maîtrisant bientôt son émotion, il répondit au regard menaçant du vieillard par un coup d'œil où se peignaient si bien la résolution et le défi que celui-ci, tout interdit à son tour, porta les yeux d'un autre côté. Il avait senti la résistance et comprenait que la lutte était désormais inévitable. « Mrs. Haggistoun, votre bras pour aller à table. Donnez le vôtre à Miss Fartz, George, » dit-il à son fils. Et l'on se mit en marche. « Miss Fartz, » disait George à la riche héritière, « j'aime Amelia, et nous sommes fiancés l'un à l'autre depuis nos plus jeunes années. » Pendant le repas, George parla avec une volubilité qui le surprenait lui-même et irritait de plus en plus les nerfs de son père. On eût dit qu'il trouvait du plaisir à amonceler les nuages pour l'orage qui allait éclater après le départ des dames. Mais il existait cette différence entre les deux champions, que le père écumait de rage et était tout hors de lui, tandis que le fils conservait le sang-froid et la clarté de pensée qui manquaient au vieillard, et se trouvait ainsi armé non seulement pour l'attaque, mais encore pour la riposte. Il ne se préoccupait point de la bataille, trouvant qu'il serait assez tôt d'y penser quand le moment serait enfin venu. Il mangea donc avec le plus grand calme et du meilleur appétit, attendant le signal pour commencer la mêlée. Le vieil Osborne, au contraire, était en proie à une agitation nerveuse, vidant les verres les uns après les autres. Plus d'une fois, il perdit le fil de ses idées dans sa conversation avec ses voisines, et le sang-froid de George redoublait encore sa colère. Il était presque fou de voir l'impassibilité de son fils à jouer avec sa serviette, à s'incliner profondément devant les dames qui se levaient pour partir, à leur ouvrir la porte, à remplir son verre, à en déguster à loisir le contenu, puis enfin à regarder son père entre les deux yeux, en ayant l'air de lui dire « Messieurs de la garde, tirez les premiers !» Le vieillard voulut prendre du renfort, Mais le carafon heurtait son verre dans un choc convulsif, sans arriver à le remplir. Après avoir poussé un gros soupir, et avec la figure d'un homme qui suffoque, M. Osborne commença la charge. « Vous êtes bien osé, monsieur, de venir prononcer devant Miss Fartz et dans mon salon le nom de cette personne. Voyons, monsieur, pouvez-vous m'expliquer une pareille audace ?»«
Prenez garde aux termes que vous employez, » dit Georges. « Votre mot « d'oser » sonne mal aux oreilles d'un capitaine de l'armée anglaise.
« Mon fils ne me dictera peut-être pas le choix des mots, monsieur. Quand je le voudrais, il n'aura pas dans sa poche un shilling vaillant. Quand je le voudrais, il sera aussi pauvre que le dernier des mendiants. Je parlerai comme il me plaît, » poursuivit le vieillard.
« Bien que votre fils, je suis gentilhomme, monsieur, » répondit Georges avec hauteur. « Quelques avis que vous ayez à me donner, quelques ordres que vous vouliez me transmettre, je vous prie de me parler avec la politesse à laquelle j'ai droit de prétendre. »
Toutes les fois qu'il s'élevait à ce ton d'arrogance, le jeune officier portait son père au comble de la colère ou de la terreur. Le vieil Osborne redoutait chez son fils l'usage du grand monde et des belles manières qui lui faisaient complètement défaut, car rien, en général, ne met plus mal à l'aise un manant que de sentir à côté de lui un homme de bon ton.
« Mon père n'a pas dépensé pour mon éducation tout ce que m'a coûté la vôtre. Il n'a pas fait les mêmes sacrifices, et je ne lui ai pas coûté aussi cher. Si j'avais fréquenté la société où certains êtres peuvent vivre, grâce à moi, mon fils n'aurait peut-être pas tant de motifs de faire le fier, monsieur, et de tirer supériorité de ses airs de grand seigneur. »
Le vieil Osborne appuya en prononçant ces mots avec une intention ironique. De mon temps, on ne croyait pas qu'il fût d'un gentilhomme d'insulter son père. Si j'avais rien fait de pareil, monsieur, le mien m'aurait jeté un coup de pied à la porte, monsieur.
Je ne vous ai point insulté, monsieur. Je vous ai seulement prié de vous souvenir que j'étais aussi gentilhomme que vous.
Je sais très bien que vous me donnez de l'argent à discrétion, continua Georges en serrant dans ses doigts un paquet de banknotes que M. Chopper lui avait délivré le matin même. Mais vous en êtes fastidieux avec vos répétitions. Craignez-vous donc que je ne l'oublie ?
Vous devriez avoir autant de mémoire pour tout le reste, monsieur, répliqua le père de plus en plus irrité. Vous devriez vous rappeler que dans cette maison, aussi longtemps que vous daignerez l'honorer de votre présence, je suis le maître, moi, que ce nom, et que vous... Et je veux...
Quoi, monsieur ? Dit Georges avec un sourire moqueur. Et il remplit de nouveau son verre.
Mille tonnerres ! S'écria le père avec un effroyable jurement. Que ce nom de Sedley ne soit plus prononcé ici, monsieur. Non, je ne veux rien qui me rappelle cette damnée engeance.
Ce n'est pas moi, monsieur, qui le premier ai mis en avant le nom de Miss Sedley. Mes sœurs en disaient du mal à Miss Fartz, et je me suis promis de la défendre en toute rencontre. Personne ne traitera légèrement ce nom en ma présence. Notre famille lui a déjà fait assez d'affronts, il est temps d'arrêter la calomnie devant la ruine de ses malheureux. Le premier qui s'avisera de parler contre elle sentira le poids de ma main.
« Allez donc, monsieur, allez donc !» dit le vieux père, dont les yeux sortaient de leurs orbites.
« Oui, certes, monsieur, je prétends persévérer dans mes sentiments pour cette angélique jeune fille. Si je l'aime, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous. J'aurais peut-être adressé mes hommages d'un autre côté, élevé mes vœux plus haut, en dehors de notre cercle étroit, mais je n'ai fait que vous obéir. Et maintenant que son cœur est à moi, vous me dites de l'abandonner, de la punir d'un crime dont elle est innocente, de causer sa mort peut-être, et tout cela pour les fautes d'autrui. Voilà où serait la lâcheté et la bassesse, voilà où serait l'infamie, dit Georges, cédant à l'exaltation de son enthousiasme. Se jouer ainsi du cœur d'une jeune fille, d'un ange descendu du ciel au milieu de ce monde dont ses vertus exciteraient l'admiration, si sa douceur et son aménité ne réduisaient au silence les accusations de la haine. « Enfin, si je la délaissais, monsieur, croyez-vous qu'elle m'oublierait ?»«
Il ne me convient point, monsieur, de prêter l'oreille à ce galimatias d'absurdité sentimentale, » s'écria le père de Georges. « Je ne donnerai point la main à un mariage qui ferait entrer des gueux dans ma famille. Du reste, à votre aise, monsieur, il ne tient qu'à vous de laisser envoler 8 000 livres sterling de rente quand vous n'avez qu'à vous baisser pour les avoir. Mais alors songez à faire votre paquet. » Une fois pour toutes, Voulez-vous faire ce que je vous dis, monsieur ?»« Épouser cette mulâtresse ?» dit Georges en redressant les pointes de son faux col. « Je n'aime pas la teinture, monsieur. Vous ferez mieux d'envoyer chercher le nègre qui balaye à Fleet Market. Pour moi, monsieur, je ne veux pas m'allier à la Vénus Hottentote. » Monsieur Osborne s'élança furieux vers la sonnette qui, d'ordinaire, servait à faire venir le sommelier pour le Bordeaux, et d'une voix à moitié étouffée par la colère, il lui donna l'ordre de faire avancer un fiacre pour le capitaine Osborne. C'est une affaire faite, dit George, entrant une heure après chez Slaughter, avec une figure pâle et défaite. Quelle affaire, mon garçon, dit Dobbin. George lui exposa tout au long ce qui s'était passé entre lui et son père. « Je l'épouserai demain, » dit-il avec un jurement. « Ah, Dobbin, Dobbin, chaque jour, je sens mon amour grandir pour elle. » Chapitre 22. Mariage et premier quartier de la lune de miel. La garnison la plus déterminée et la plus courageuse ne peut tenir contre la famine. Le vieil Osborne comptait sur cet auxiliaire dans la lutte que nous lui avons vue engager avec son fils. Il ne doutait point que George ne vînt faire une soumission complète dès qu'il se trouverait à court d'espèces. Il était à regretter seulement que le jour même du premier assaut, l'ennemi eût ravitaillé la place. Mais les provisions ne devaient durer qu'un temps, et suivant ses calculs, le vieil Osborne s'attendait avant peu à une reddition. Pendant plusieurs jours, toute communication cessa entre le père et le fils. Le premier s'étonnait de ce silence, sans en être autrement inquiet. Car, ainsi qu'il disait avec son élégance habituelle, il savait fort bien où le bât blessait Georges, et il s'en rapportait à l'infaillibilité de ses prévisions. Il avait raconté minutieusement à ses filles les détails de sa querelle avec son fils, tout en leur enjoignant de rester étrangères à cette affaire, et d'accueillir Georges à son retour comme si rien ne s'était passé. Le couvert du fils rebelle était mis tous les jours comme à l'ordinaire, et le vieux marchand se préoccupait peut-être beaucoup plus de son absence qu'il ne le disait et ne voulait le laisser paraître. Il envoya aux informations chez Slaughter, où l'on ne put rien lui dire, sinon que George et son ami, le capitaine Dobbin, avaient quitté la ville. Par une matinée maussade et pleureuse de la fin d'avril, des giboulées balayaient par rafale le trottoir de la rue où se trouvait le café du vieux Slaughter. George Osborne arriva dans le café, l'air pâle et les yeux hagards. Sa mise, cependant, indiquait une certaine recherche. Il portait un habit bleu aux boutons bronzés et un gilet en peau de daim, suivant la mode du temps. Dobbin, qu'il retrouva dans cet endroit, avait lui aussi abandonné la casaque militaire et le pantalon gris dont il affublait d'ordinaire sa longue et osseuse personne pour l'habit bleu aux boutons bronzés. Dobbin venait de passer une heure et plus dans le café, à prendre successivement tous les journaux sans pouvoir venir à bout d'en lire un seul. Il avait plus de 20 fois jeté les yeux sur la pendule, puis dans la rue, où la pluie balayait la chaussée, où les passants faisaient retentir le pavé sous leurs socs, où leurs ombres mouvantes miroitaient en longs reflets sur les dalles humides. Tantôt il battait le rappel sur la table, puis rongeait ses ongles jusqu'à la racine, ce qui ajoutait à la beauté de ses mains monumentales. Ensuite, il mettait en équilibre sur le pot-au-lait une petite cuillère et la poussait avec une pichenette, etc., etc. L'impatience de son esprit se faisait jour dans ses moindres gestes et le portait à ces déplorables distractions qui sont le suprême recours d'un esprit en proie à toutes les anxiétés de l'attente. Quelques camarades du régiment, habitués de ce café, le plaisantaient sur l'élégance de son costume et sur la surexcitation fébrile de ses nerfs. On lui demandait si par hasard il n'allait pas se marier. Dobbin riait du bout des lèvres et promettait à son ami, le major Wagstaff, de lui envoyer un morceau de gâteau aussitôt après la cérémonie. Enfin arriva le capitaine Osborne en grande tenue, comme nous l'avons dit, mais très pâle et très agité. Il essuya avec son foulard des Indes sa figure décomposée où perlait la sueur, et une forte odeur d'eau de Cologne se répandit dans toute la pièce. George serra ensuite la main de Dobbin, regarda la pendule, dit à John le garçon de lui apporter du curaçao, dont il avala 2 verres avec une précipitation fébrile, et son ami lui demanda comment il se portait. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, Dob, » dit-il. « J'ai eu le frisson et un mal de tête épouvantable. Levé à 9 heures, je suis sorti pour prendre un bain. C'est tout comme le jour où je me suis rendu sur le terrain avec Roquette, à Québec, si vous vous en souvenez, Dobbin. « Je crois bien, répondit William, mais diable de nerfs me tiraillait encore plus que vous ce matin-là. Car même vous aviez joliment mangé, sans reproche. Puisque cela vous a si bien réussi, recommencez aujourd'hui. Vous êtes toujours bon et prévenant, Will. Je veux boire à votre santé, mon vieux, et au diable, là. Non, non, 2 verres, c'est assez, fit Dobbin en l'arrêtant. John, enlevez ce carafon. Voilà du poivre de Cayenne pour mettre avec votre poulet, et dépêchez-vous, car nous devrions déjà être là-bas. » La pendule marquait 11h30 quand les deux capitaines échangeaient ces quelques paroles. Un fiacre, où le domestique d'Osborne avait placé son nécessaire de voyage et sa valise, attendait à la porte depuis quelques instants. Les deux jeunes gens gagnèrent la voiture, abrités sous un parapluie, et le domestique grimpa sur le siège en maugréant contre l'averse et contre l'humidité du manteau du cocher, d'où se dégageait une épaisse vapeur. « Nous trouverons heureusement une meilleure voiture à la porte de l'église », se disait-il par manière de consolation. Le fiacre traversa Piccadilly, où alors encore Apsley House et l'hôpital Saint-Georges portaient leurs robes de briques rouges, où l'on voyait encore des réverbères à l'huile, où Achille devait bientôt se dresser sur son socle de granit, où devait s'élever d'en peu l'arc de triomphe de Pimlico, surmonté de ce monstre équestre qui semble vouloir enjamber tous les toits du voisinage. Enfin, ils s'arrêtèrent à Brompton, devant une petite chapelle, au carrefour de Fulham. Une voiture de poste attelée de 4 chevaux attendait à la porte. Par l'élégance de sa coupe, elle rappelait les voitures de remise. Quelques oisifs seulement bravaient cette fâcheuse averse. « Morbleu, dit Georges, je n'avais commandé que 2 chevaux. »« Mon maître en a voulu 4, répondit le domestique de M. Joseph, posté sur le seuil en sentinelle. Le valet de M. Osborne et celui de M. Joseph trouvaient, tout en suivant leur maître dans l'église, que c'était donner un croc en jambe aux convenances que de faire une noce sans repas, sans bouquet, sans ruban. « Ah, vous voici !» dit à Georges Joseph Sedley, notre galant cavalier du Vauxhall. « Vous êtes de 5 minutes en retard, Georges, mon garçon. Quel temps, bon Dieu ! Cela me rappelle la saison des pluies au Bengale. Mais soyez tranquille, ma voiture est imperméable. » Amy et ma mère sont déjà à la sacristie. Joe Sedley était dans toute sa splendeur. Jamais on ne l'avait vu si gras. Jamais son faux col n'était monté si haut. Jamais sa face n'avait été plus rubiconde. Son jabot s'étalait avec orgueil sur son gilet à ramages. Ses bottes à la hongroise resplendissaient sur la rotondité de ses mollets. Sur son habit vert clair s'épanouissait la rosette nuptiale, large et blanche, comme la fleur du magnolia. Georges jouait son va-tout. Il allait se marier. Ce seul mot explique la pâleur de sa figure, l'excitation de ses nerfs, ses insomnies et ses frissons. J'ai entendu des gens qui affrontaient la même épreuve avouer la même émotion. À la 3e ou 4e fois, on finit par s'y accoutumer sans doute, mais le premier plongeon coûte toujours beaucoup à faire. La mariée avait une douillette de soie brune, comme me l'a appris depuis le capitaine Dobbin, et portait un chapeau de paille avec un ruban rose et un voile en dentelle blanche de chantilly. Le capitaine Dobbin, après lui en avoir demandé la permission, lui avait offert une montre avec sa chaîne d'or qu'elle portait pour la cérémonie. Sa mère lui avait fait présent d'une broche en diamant, unique bijou resté en possession de Mrs. Sedley. Pendant le service, cette excellente mère, assise dans l'un des bancs, versait d'abondantes larmes, tandis que la servante irlandaise et Mrs. Clapp, son hôtesse, s'efforçaient de la consoler. Le vieux Sedley n'avait pas voulu assister au mariage. Joe remplaçait son père et conduisait la mariée à l'hôtel, tandis que le capitaine Dobbin remplissait, du côté de George, les fonctions de garçon d'honneur. Dans l'église se trouvait seulement le clergé qui officiait. La pluie sur les vitraux et les sanglots de Mrs. Sedley étaient le seul bruit qui vint par moments interrompre le service divin. La voix du ministre ébranlait les tristes échos de ces voûtes désertes. Le « oui » d'Osborne se fit entendre, grave et articulé. La réponse d'Amy, s'échappant avec peine de son petit cœur, parvint mourante à ses lèvres et n'arriva qu'aux seules oreilles du capitaine Dobbin. La cérémonie terminée, Joe Sedley embrassa sa sœur. C'était plus qu'il n'en avait fait pour elle depuis plusieurs mois. George avait déposé son air triste et semblait maintenant tout radieux. À votre tour, William, dit-il tout joyeux, en frappant sur l'épaule de Dobbin. Et Dobbin s'en alla embrasser Amelia sur la joue. On alla ensuite à la sacristie pour signer le registre.
« Dieu vous bénisse, mon vieux Dobbin, » dit George en lui serrant la main, la vue presque troublée par les larmes.
William répondit par un mouvement de tête. Son cœur était trop ému pour lui permettre d'en dire plus long.
« Écrivez-nous régulièrement et venez aussitôt que possible, n'est-ce pas, mon ami ?» dit Osborne.
Après les adieux très pathétiques qui eurent lieu entre Mrs. Sedley et sa fille, le nouveau couple monta dans la voiture.
« Gare là, petit polisson !» cria George à une troupe de gamins, tout trempés de pluie, qui stationnaient devant la porte de l'église.
L'averse cinglait sur la figure des deux époux, rien que pour monter dans la voiture. Les rubans des postillons se collaient sur leurs vestes ruisselantes. La troupe d'enfants poussa des hurlements diaboliques au moment où la voiture s'éloigna en les éclaboussant.
William Dobbin, de la porte de l'église, les regardait disparaître avec une expression singulière dans le regard. La petite troupe de curieux riait de son air bizarre, mais ils se souciaient bien des curieux et de leur rire.
« Allons manger un morceau, Dobbin !» lui cria une voix par derrière. En même temps, une main pesante, s'abaissant sur son épaule, coupait court aux rêveries du pauvre garçon. Mais le capitaine ne se sentait pas le cœur à se rendre aux provocations gastronomiques de Joe Sedley. Il installa dans la voiture la vieille dame tout éplorée, vit Joe monter à côté d'elle et les domestiques sur le siège, puis les quitta sans leur faire de bien longs adieux. Cette seconde voiture disparut comme la première, et les gamins la poursuivirent encore de leurs cris railleurs.
« Voilà pour vous, petit mendiant !» dit Dobbin en leur jetant de la menue monnaie. Puis il s'en alla lui-même sans faire attention à la pluie. Tout était donc fini. Il les voyait donc mariés et heureux. Du moins, Dobbin le demandait au ciel. Quant à lui, le pauvre garçon, jamais il ne s'était trouvé si seul et si abandonné. Il aurait déjà voulu être à quelques jours de là pour la revoir de nouveau.
10 jours environ après la cérémonie dont nous venons de parler, 3 jeunes gens de notre connaissance étaient à admirer ce magnifique panorama de Brighton, où d'un côté se déroulent devant les yeux du visiteur de délicieuses petites tourelles, et de l'autre, l'azur de la mer. Tantôt le citadin émerveillé contemple l'océan, dont le sourire des vents plisse la surface de rides sans nombre, sur lesquelles 1000 voiles blanches étincellent au soleil, et que couronne une coquette ceinture de mystérieuses cabines. Tantôt un ami de la nature humaine, qui la préfère aux sites les plus pittoresques, se tourne du côté des tourelles, où un air de vie indique la présence de l'homme. Ici, l'on entend gémir un piano qu'une jeune demoiselle, en tire-bouchon, martyrise 6 heures par jour pour le plus grand plaisir des autres locataires. Là, une gentille petite bonne, l'aimable Polly, fait sauter dans ses bras Maître Omnium, tandis que Jacob mange des sauterelles à l'étage au-dessous et dévore le Times pour son déjeuner. Là-bas, ce sont les filles d'Ève qui regardent les jeunes officiers de dragons en promenade sur la plage. Ou bien c'est encore un bon habitant de Londres en costume nautique, armé d'un télescope de la dimension d'un canon du calibre 6, qui a pointé son instrument sur la mer et à l'inspection duquel n'échappe aucune barque de plaisance ou de pêche, aucune cabine de baigneuse allant à la mer ou en revenant, etc., etc. Que n'avons-nous le loisir de décrire Brighton ? Car Brighton, c'est la voluptueuse Naples avec des lazaronies aristocratiques. Car Brighton a toujours l'air frais, aimable et pimpant, comme le costume d'un harlequin. Car Brighton, éloigné de 7 heures de Londres à l'époque dont nous parlons, n'en est plus qu'à 1 centaine de minutes et s'embellira peut-être encore davantage, à moins que la flotte française ne juge à propos de venir la bombarder.
Voilà une petite qui est diablement belle dans cette maison, au-dessus des modistes, dit un des promeneurs à son voisin.
Hein, Crawley ? « Avez-vous vu comme elle m'a fait de l'œil quand je suis passé ?»«
N'allez pas la blesser au cœur, Joe, mauvais sujet que vous êtes, » répliqua l'autre.
« N'allez pas ainsi badiner avec les affections féminines, monsieur le don Juan. »«
Laissez-moi, » reprit Joe Sedley, fort satisfait et jetant à la bonne des œillades assassines. Joe était encore plus brillant à Brighton qu'au mariage de sa sœur. Il avait un choix de gilet du dernier goût, dont un seul eût suffi pour contenter un dandy plus modeste. Il portait un habit d'uniforme orné de brandebourgs, de franges et de boutons,
mais avec des broderies tortueuses comme le méandre. Il affectait un costume militaire et toutes les allures de l'emploi, se promenait avec ses deux amis, tous deux officiers dans l'armée, faisait sonner ses bottes à éperon en l'honneur de toutes les servantes qu'il jugeait dignes de ses regards meurtriers. « Qu'allons-nous faire, mes enfants, jusqu'au retour de ces dames ?» demanda notre lion. Ces dames étaient allées faire une promenade en voiture à Rottingdean. « Nous pourrions jouer au billard, » reprit un de ses amis, le grand aux moustaches cirées. « Non, diable, non, capitaine, » répliqua Joe un peu alarmé. « Pas de billard aujourd'hui, crawlait mon garçon. C'est bien assez d'y avoir joué hier. »« Cependant, vous avez un coup de queue admirable, » dit Crawley en riant. « N'est-ce pas, Osborne ? Comme il est fort avec son fameux coup de 5. »« Très fort, » reprit Osborne. « Joe est un rude jouteur au billard, sans compter le reste. » « Je voudrais bien qu'il fût possible de chasser le tigre dans les environs. Nous serions allés en tuer quelques-uns avant dîner. Tenez, la jolie fille, quelle jambe! Joe, racontez-nous donc l'histoire de votre chasse au tigre et de l'entrevue que vous avez eue avec lui dans les fourrés de l'Inde. Ah, Crawley, voilà une bien merveilleuse histoire !» George Osborne eut un bâillement. « Que la vie est ennuyeuse ici-bas » continua-t-il. « Eh bien, que faire ?» « Si nous allions voir les chevaux qui viennent d'arriver de la foire de Lewis, » dit Crawley. « Pourquoi ne pas aller plus tôt chercher les petits gâteaux qui doivent sortir du four ?» proposa ce scélérat de Joe, qui songeait à faire d'une pierre deux coups. « Elle est fort jolie, la pâtissière. » « Encore mieux, allons au-devant de l'éclair qui va arriver, car voici son heure, » dit George. Ce dernier avis l'emporta. On remit à un autre jour la visite à la pâtissière et aux chevaux, et l'on se dirigea vers les bureaux de l'éclair. Sur leur route, ces trois messieurs rencontrèrent la voiture découverte de Joe Sedley, ornée de magnifiques armoiries. C'était dans ce splendide équipage qu'il avait coutume de se produire en public, majestueux dans son isolement, les bras croisés sur la poitrine, son chapeau à cornes sur l'oreille, ou bien, dans ses jours de bonne fortune, ayant des dames à ses côtés. Deux personnes occupaient alors la voiture, une jeune femme aux cheveux un peu rouges et mise à la dernière mode, et une autre en douillette de soie brune, avec un chapeau de paille et des rubans roses, encadrant une figure ronde et vermeille qui faisait plaisir à voir. Cette dernière fit arrêter la voiture quand elle fut proche des trois jeunes gens, puis, comme toute honteuse de cet acte d'autorité, elle s'empressa de rougir de la façon la plus ridicule. « Nous avons fait une délicieuse promenade, George, » se mit-elle à dire. « Et nous sommes bien aises d'être rentrés. Et, Joseph, ne faites pas rentrer mon mari trop tard. N'allez pas conduire nos maris à leur perte, monsieur Sedley, esprit tentateur que vous êtes, » reprit l'autre dame en menaçant Joe d'un joli petit doigt précieusement serré sous un gant français. « Point de billard, point de fumerie, soyez sage. » Ma chère Mrs. Crawley, je vous le jure, sur mon honneur, » ce furent les seuls mots que l'éloquence de Joe put proférer pour toute réponse. Mais si la parole lui manquait, il eut soin de prendre une pause académique. Il inclina légèrement la tête sur son épaule, souffla d'une manière expressive en regardant sa victime d'autrefois. En même temps, une de ses mains reposait derrière lui sur sa canne, tandis que l'autre, sur laquelle scintillait un gros brillant, chiffonnait son jabot et jouait avec son gilet. Quand la voiture repartit, il envoya 1000 baisers aux dames. Combien n'eût-il pas donné pour que tout Brighton, tout Londres et tout Calcutta puissent le voir dans cette attitude galante, au milieu des saluts qu'il adressait à une si piquante beauté, et dans la compagnie d'un lion aussi renommé que Crawley des gardes. Nos nouveaux mariés étaient venus à Brighton après la cérémonie de leur mariage et avaient passé, dans un appartement de l'hôtel de la Marine, quelques jours de calme et de bonheur, en attendant l'arrivée de Joe. Toutefois, ils se trouvèrent bien vite en pays de connaissance, car une après-midi, en revenant d'une promenade au bord de la mer, ils se rencontrèrent nez à nez avec Rebecca et son mari. Rebecca se jeta dans les bras de sa chère Amelia. Crawley et Osborne se serrèrent la main avec assez de cordialité, et Becky, en quelques heures, trouva le moyen de faire oublier à ce dernier les paroles un peu dures de leur dernière entrevue. « Vous rappelez-vous la dernière fois que je vous vis, chez Miss Crawley ? Je vous ai un peu maltraité, mon cher capitaine. C'est que vous aviez l'air d'être refroidi pour notre chère Amelia. Voilà ce qui me fâchait, m'irritait jusqu'à me rendre méchante et même ingrate. Votre main, capitaine, et passons l'éponge. » Et en même temps, Rebecca lui tendait la main. avec une grâce si franche et si irrésistible qu'Osborne ne trouva rien de mieux que de la prendre et de croire à la sincérité de la démarche de Becky. Nos deux jeunes couples avaient beaucoup à se dire. Chacun fit à l'autre le récit de son mariage et raconta ses projets d'avenir avec une franchise et un intérêt réciproques. Le mariage de George devait être annoncé à son père par son ami le capitaine Dobbin, et le jeune Osborne tremblait un peu des suites de cette communication. Miss Crawley, à laquelle se rattachaient toutes les espérances de Rawdon, lui tenait encore rigueur. Consigné à la porte de sa maison de Park Lane, il avait, avec sa femme, suivi cette chère tante à Brighton et posté dans sa rue des émissaires en permanence. « Il faudra que nous vous fassions aussi connaître, ma chère, » dit Rebecca en riant, « quels vigilants amis Rawdon tient en faction perpétuelle à sa porte. Avez-vous jamais vu la mine d'un créancier ou celle d'un bailli avec son assesseur? Deux abominables gredins qui sont toute la semaine à nous épier de la boutique de l'épicier, de telle sorte que nous ne pouvons sortir que le dimanche. Si la tante ne s'apprivoise pas, gare au dénouement. » Rawdon, avec de gros éclats de rire, raconta une douzaine de tours fort divertissants qu'il avait joués à ses créanciers et la manière adroite dont Rebecca leur donnait congé. Il affirma avec un gros juron qu'il n'y avait pas en Europe une femme qui fût comparable à la sienne pour le talent d'envoyer paître les créanciers. Presque aussitôt après son mariage, elle avait eu à recourir à ce don naturel et son mari avait pu alors l'apprécier à sa juste valeur. Ils avaient su se créer un crédit illimité, mais ils avaient aussi des protêts à revendre et ils poursuivaient leur projet au milieu d'une disette absolue de vil métal. Ces embarras pécuniaires jetaient-ils quelque brouillard sur la bonne humeur de Rawdon? Aucun. Le meilleur moyen pour vivre au sein de l'opulence, c'est d'être criblé de dettes. On n'a rien alors à se refuser, et dans cette situation, l'esprit se trouve toujours allègre et dispo. Rawdon et sa femme occupaient le plus bel appartement du plus bel hôtel de Brighton. L'hôte, en leur présentant chaque plat, les saluait comme ses plus gros consommateurs. Rawdon engloutissait ses dîners et son vin avec un aplomb de magna ou de prince russe. Des allures de grand seigneur, des bottes et un costume irréprochable, de l'arrogance dans la tournure, enfin une certaine rouerie, posent souvent beaucoup mieux un homme que des fonds placés chez un banquier. Les deux couples ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre. Au bout de deux ou trois jours, les messieurs organisèrent pour le soir une table de piquet, tandis que leurs femmes se mettaient dans un coin à causer. Les cartes avec George, le billard avec Joe Sedley, qui ne tarda pas à arriver dans sa grande voiture découverte, aidèrent à combler les vides de la bourse de Rawdon et lui procurèrent les avantages de cet argent comptant, dont la disette met dans l'embarras les plus grands génies eux-mêmes. Mais revenons à nos trois jeunes gens qui s'en allaient au-devant de l'éclair. La voiture, d'une exactitude rigoureuse, était bondée à l'intérieur comme à l'extérieur. Le conducteur tira de son corps ses modulations habituelles. L'éclair entra dans la rue avec une rapidité digne de son nom et s'arrêta devant le bureau des voitures. « Bravo, voilà Dobbin !» s'écria George, enchanté de voir son vieil ami perché sur l'impérial. Sa visite, différée de jour en jour, était impatiemment attendue. « Comment vous portez-vous, mon brave garçon? Vous êtes bien aimable d'être venu. « Amy va être enchantée de vous voir, » dit Osborne, donnant une cordiale poignée de main à son ami, quand celui-ci fut descendu de son poste élevé. Puis, d'une voix plus basse, « M'apportez-vous des nouvelles? Avez-vous été à Russell Square? Que dit le père Rabat-Joie? Ne me cachez rien. » La figure de Dobbin était pâle et grave. « J'ai vu votre père, » répondit-il. « Comment va Amelia, Mrs. George? Vous aurez toutes les nouvelles. Mais la plus grande de toutes, c'est que... « Vite, mon vieux camarade !» dit George avec anxiété. « On nous envoie en Belgique. L'armée entière est commandée pour le départ. Le régiment des gardes, comme les autres. » Heavy Top a ses accès de goutte et enrage de ne pouvoir bouger. O'Dowd le remplace. Nous nous embarquons à Chatham la semaine prochaine. » Ces nouvelles de guerre, tombant comme la foudre sur nos amants, les plongèrent dans de sérieuses et tristes méditations.